Je voudrais que nous fassions plusieurs lectures, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Ça fait 31 ans que je prêche et c'est la première fois que j'utilise ce texte, pour plusieurs raisons que je n'ai pas besoin de développer, mais c'est pour vous dire que ça doit être important. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Dieu veut que les gens entendent certaines choses. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Combien je vous encourage à amener votre Bible. Vraiment, c'est important. Et même un crayon avec un papier pour noter certains textes qui vous serviront de base peut-être ce soir ou demain matin pour méditer, reméditer certaines choses. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Je voudrais lire avec vous un texte dans le livre des Proverbes, également chapitre 19, au verset 16. Combien je vous encourage à lire régulièrement. Un pasteur a dit, il y a 31 chapitres, et bien il faudrait en lire un par jour. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne idée de lire tous les jours un chapitre du livre des Proverbes. Mais nous allons lire ce matin un verset, Proverbes chapitre 19, verset 16. 16, oui. Proverbe 19, verset 16. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. Ça ne peut pas être plus clair. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. Dans l'épître de Pierre, je vous donnerai d'autres versets, mais on va quand même le lire. Je ne savais pas s'il fallait le prendre maintenant, mais je pense que oui. C'est dans 1 Pierre chapitre 4, verset, on va lire le verset 17, oui. Je sais qu'il me fallait prendre ce verset, mais je ne pensais pas à l'introduction. Je crois que c'est important pour quelqu'un de réaliser peut-être d'emblée la portée de cette sévérité de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Jugement, ça ne veut pas dire condamnation, attention. Ça veut dire le jour où il faudra rendre des comptes. Il y a 7 mots en grec pour le mot jugement, mais là c'est justement le fait de rendre des comptes. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et regardez la question que Dieu pose. J'aime dire que quand Dieu pose une question, c'est quand même respectueux qu'on lui réponde. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc si vous êtes spirituel, vous comprenez qu'il y a 3 catégories de personnes. Le juste, celui qui est justifié et qui pratique la justice. Et il y a 2 autres personnes qui s'appellent l'impie, et une autre catégorie qui s'appelle le pécheur. Le pécheur, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, il ne veut pas de Dieu, il se dit athée, comme ça il n'a pas besoin de régler le problème de l'éternité. Le pécheur, c'est celui, il ne veut pas de Dieu, je caricature, mais c'est ça. Il entend, il croit en Dieu, il s'en fiche, il ne veut pas de Dieu. L'impie, ou le méchant, c'est quelqu'un qui a connu Dieu, et qui, chemin faisant, s'est détourné du Seigneur, et Dieu l'appelle le méchant ou l'impie. Il n'a plus de piété. Si le juste se sauve avec peine, il y a un travail. La Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Donc le juste, il fait des efforts parce qu'il y a des luttes, des combats, parce qu'il y a des tentations, etc. Mais que deviendront l'impie et le pécheur? Donc le chrétien qui n'a pas de piété, et bien sûr le pécheur, on sait très bien ce qu'il va advenir. Vous avez vu dans le prophète Ézéchiel combien Dieu reprend sévèrement son serviteur, qui pourtant il est accroché, Ézéchiel. Il le reprend sévèrement par rapport aux choses qui doivent être dites, aux avertissements. Vous avez remarqué ce mot qui revient régulièrement dans le petit texte que nous avons lu, avertir. La parole de Dieu ne cesse de nous avertir. La prédication de dimanche dernier, où j'ai pris le verset « À celui qui vaincra », vous pouvez le tordre comme vous voulez, mais c'est quand même un avertissement. Dieu nous avertit. Et beaucoup de gens n'ont rien à faire des avertissements. Ils s'imaginent que ce n'est pas important. Et c'est là que le problème y commence. Parce que les chrétiens s'imaginent que les avertissements, ce n'est pas si grave que ça. Dieu est bon, Dieu passera certainement sur plein de trucs. Dieu est bon. Vous savez, je veux pas dire des choses pénibles. Mais vous savez, il m'est arrivé dernièrement d'aller dans une église. Je le dis pour que vous compreniez que c'est grave. Tous les cantiques, c'est bien de chanter des beaux cantiques, si la mélodie elle est bien, tant mieux. Tous les cantiques étaient sur l'amour de Dieu, que sur l'amour de Dieu. Et un pécheur qui rentre, quand il entend ce qu'il a entendu, il ne peut que dire avec ce qui a été dit, ben, tout va bien. Parce qu'il faut se mettre, moi je peux vous dire que je me mets à la place des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et certains, ils doivent se dire certaines choses par rapport à nos cultes. Je crois qu'il faut prendre des cantiques sur l'amour de Dieu, mais je crois aussi qu'il faut prendre des cantiques sur la justice et sur la sainteté. Vous êtes d'accord, les meneurs de chant? J'espère que vous êtes d'accord. Quand la parole de Dieu est prêchée selon la volonté de Dieu, les gens sont touchés. Vous vous rappelez ce lépreux qui s'est approché de Jésus, couvert de lèpre, après le sermon sur la montagne? Il s'est approché, il s'est jeté aux pieds du Seigneur, il a risqué gros ce jour-là, parce qu'il risquait la lapidation, mais il voulait s'approcher de Jésus. Et quand Jésus s'est approché de lui, quand il s'est approché de Jésus plutôt, qu'il a dit, mais si tu le veux, tu peux me rendre pur, Jésus n'a pas dit, mais t'as vu dans quel état t'es, va-t'en. Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Croyez-moi, si vous êtes venu en vous approchant de Dieu, je ne sais pas si vous êtes vraiment accroché, si vous êtes tiède, si vous venez pour la première fois, mais que vous veniez peut-être pour accompagner quelqu'un, je ne sais pas. Mais Dieu sait comment vous êtes venu. Et Dieu sait la parole qu'il a à vous dire. Mais laissez-moi vous dire que si vous vous approchez, ne serait-ce dans l'état de ce bonhomme qui était couvert de lèpre, je peux vous dire que vous pouvez partir purifié, et béni, et délivré, et guéri, parce que c'est le but. C'est le but de ces moments, non seulement que nous louions le Seigneur parce qu'il est digne d'être loué, et j'insiste et je répète que dans nos cultes, bon moi je ne juge pas si quelqu'un prie pour sa grand-mère parce qu'elle est malade, mais je pense que nous devrions louer et célébrer le Seigneur parce pour ce qu'il est. Mais si d'un côté nous sommes venus pour le louer, si d'un côté nous sommes là pour le Seigneur, de l'autre côté le Seigneur il est là pour nous et pour guérir. Il y a des gens qui ont besoin de guérison, il y a des chrétiens qui ont besoin de guérison. Est-ce qu'on l'a compris? Quand Jésus a prêché sur la parabole du filet, vous savez que quand il a prêché la parabole, le premier texte ou deuxième texte où il dit c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, il dit mais est-ce que vous avez compris toutes ces choses? Il parle aux apôtres, aux pasteurs, aux futurs pasteurs. Et ils ont dit oui. Bon, quand on lit la suite, on se rend compte qu'ils n'avaient pas tout à fait tout compris. Bon. Ne soyons pas trop sévères, parce qu'on ne peut pas tout comprendre de suite. La révélation, elle est progressive. Mais de là à ce qu'un chrétien qui a 15 ans de conversion soit toujours un bébé spirituel, ça fait quand même poser des questions. Alors, je ne sais pas tout ce que vous avez compris. Est-ce que vous avez compris tout? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a tout compris? Est-ce qu'on n'est pas aveuglé comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs? Jésus les a rejoints, ils n'ont même pas tilté que Jésus les accompagnait. Vous vous rappelez? Et ils ont commencé à déverser, et tu savais, et tu sais pas, parce que Jésus a faim de pas savoir ce qui se passait, de quoi vous entretenez-vous en marchant, et ils sont retournés, mais tu es le seul à Jérusalem qui sache pas ce qui est arrivé. Ils sont tout à fait interloqués. Ils ne réalisent pas qu'ils ont affaire au Seigneur du ciel et de la terre qui marche à côté d'eux, qui a pris le temps. C'est extraordinaire cette affaire, non? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, le jour de la résurrection? Allez, aidez-moi, il y a une prédication, ça se travaille. Qu'est-ce que vous auriez fait le jour de la résurrection? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Allez, dites-moi-le, s'il vous plaît. Vous rappelez comment ça s'est passé avec Caïphe, avec Hérode, avec Pilate? Vous n'auriez pas, vous, vous n'auriez pas retourné vers Pilate et dire « Pilate, Hérode, j'ai un truc à te dire. » Qu'est-ce qu'on aurait fait le jour de la résurrection? Vous savez, le Seigneur, il s'est intéressé à ses enfants. Ce matin, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il s'intéresse à ses enfants ou à ceux qui vont le devenir. Si vous saviez comment le Seigneur s'intéresse à vous, combien il est capable de nous rappeler au travers de cette histoire, combien il nous aime et combien il est là, il les a laissés parler, parce que des fois ça fait du bien de parler. Bon, des fois on parle aux autres, mais c'est bien de parler à Dieu. Vous préférez parler aux autres, vos petits problèmes, vous préférez les dire aux autres ou les dire à Dieu? Il y a des chrétiens qui disent, oui, moi je fais comme David, mais David, lui, non. David, il les disait à Dieu. Alors, ça, des fois, ça fait du bien de parler à quelqu'un. Je le sais. Ça fait du bien, des fois, de dire ce qu'on a à dire. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Et Jésus les a laissés parler. Jésus aurait pu les reprendre de suite. Quand même, c'était le Seigneur du ciel, de la terre, ressuscité, glorifié. Il a pris le temps de faire plusieurs kilomètres avec eux et de les laisser parler. Et on espérait. Et voilà, il y a des gens, ils sont tout le temps là. Mais pourquoi si, pourquoi là? Et on espérait que si. Jésus les a laissés parler. À un moment donné, il leur a expliqué les Écritures. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de ce parcours kilométrique entre Jérusalem et Emmaüs. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais une chose est certaine, vous pouvez dire au Seigneur, mais tu restes avec nous et on a besoin que nos yeux s'ouvrent. On a besoin que nos yeux s'ouvrent sur les choses que nous sommes en train de vivre. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de vous faire traverser. Vous le savez, ce que vous êtes en train de traverser? Ça vous plaît, ce que vous êtes en train de traverser? Tiens donc, est-ce que ça vous plaît? Vous allez me dire, oui, moi je suis dans la bénédiction, ça me plaît, monsieur Gou. Bon, d'accord, très bien, c'est bien, il y a des moments comme ça où on est dans la bénédiction. Mais peut-être que vous êtes dans l'épreuve, ça vous plaît pas, ça vous plaît l'épreuve? Ça vous plaît, c'est sûr qu'on ne saute pas de joie dans l'épreuve. Mais quand même, si on est intelligent et si on se retourne, on dit, Seigneur, dans cette épreuve, j'ai appris ça. Dans cette épreuve, tu m'as appris ceci, j'ai compris cela. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on a été béni, bon, c'est sûr qu'on a appris plein de choses, mais je pense qu'on a beaucoup plus appris dans l'épreuve que dans la bénédiction. On est un peu compliqué, c'est pour ça que ça marche comme ça. Mais mes frères et sœurs, moi, mon souci, et je vous assure, enfin, je ne pense pas que c'est mon souci. Il est normal qu'un pasteur il ait des soucis pour l'Église, mais je ne pense pas, parce que je sais comment je fonctionne. Je ne pense pas que ça soit mon souci. Je pense que c'est la pensée du Seigneur. Parce que ce n'est pas trop ma façon de faire, de revenir par exemple 5 ou 6 fois sur le même sujet, même si je le présente différemment pour ne pas alourdir la réunion. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts. Et ça me chiffonne. Mais même si ça me chiffonne, c'est quand même votre problème d'être prêt. Et vous connaissez tous la parabole des 10 vierges. Vous la connaissez cette parabole? Vous la connaissez bien? On la connaît tous, c'est vous ça, Matthieu 25. On va y aller, parce que je voudrais que nous comprenions cette affaire. C'est une prophétie, je l'ai déjà dit, j'y reviens, volontairement. Ne pensez pas que je ne sais pas quoi vous dire, que je ne pourrais pas vous apporter un enseignement nouveau qui ferait plaisir peut-être à certains, parce que ça serait quelque chose que vous n'avez pas entendu. Ce serait certainement intéressant, mais vous n'avez pas besoin, nous n'avons pas besoin de choses intéressantes. Nous avons besoin d'être prêts quand Jésus va revenir nous chercher. Et je voudrais que les intellos comprennent ces choses. Parce qu'il y a des gens qui ont tout le temps soif d'apprendre. C'est bien, faites-le. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous apprenez que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur. Il faut que nous comprenions certaines choses. Dans la parabole des 10 vierges, elle est suivie du jugement des nations. Vous connaissez le jugement des nations à partir du verset 31. C'est une parole terrible, terrible. Vous vous rendez compte que Jésus va dire certaines choses à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous entendrez? Vous savez qu'un jour vous passerez devant le Seigneur. Est-ce que vous le savez qu'un jour vous comparaîtrez devant Dieu? Tous, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est une affaire sérieuse ça. Oui ou non? Tous, c'est ça. C'est pour quand? J'en sais rien. C'est pour demain, c'est pour dans un an, j'en sais rien. C'est pour plus tard, qu'importe. Mais il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et là, il n'y aura pas de... Vous savez, les gens souvent, oui, vous comprenez, j'ai pas pu. Mais tout ça, c'est... On devrait être vraiment honnête. Et dire la vérité. Parce que quand même, quand vous voyez dans Matthieu chapitre 25, les paroles que Dieu va dire à certains, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Vous avez envie d'entendre ça? Entrez? Est-ce que vous avez envie d'entendre ça? Ben oui, tous les vrais chrétiens ont envie d'entendre ça. Entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Et il y en a qui entendront des paroles beaucoup plus sévères. Si vous regardez Matthieu chapitre 25 verset 41, c'est de la bouche du Seigneur Jésus. C'est pas un pasteur légaliste qui veut mettre des coups de bâton à l'église. Ça sort de la bouche du Seigneur Jésus, l'apôtre A majuscule de l'amour. Il va dire ceci, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi. » Regardez le mot que Jésus utilise, il fait peur ce mot. Maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous ne trouvez pas que c'est sévère, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de cette parole? C'est Jésus qui la prononce. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'il y en a qui auraient, le culot de dire, oui mais c'est l'apôtre Jean qui l'a dit, ou c'est Paul. C'est Jésus, l'apôtre de l'amour, le grand Dieu plein de miséricorde, qui explique bien comment les choses vont se passer. Certains entendront, mais entrez dans le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Mais entendre, maudit, on en parlait jeudi à la réunion des anciens, ce mot il fait peur, même si moi je maudissais quelqu'un ce matin, ou vous, je te maudis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Puet? Si vous dites à quelqu'un, je te maudis, qu'est-ce que vous diriez de la personne? Bon, si quelqu'un est superstitieux, il m'a maudit. Vous savez, la malédiction sans cause n'a aucun effet. Aucun effet. Si vous êtes sous le sang du Seigneur, la malédiction ne peut pas vous atteindre. Je me souviens de cette dame qui m'avait fait venir parce qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle m'avait fait venir, quelqu'un lui avait dit appelez Monsieur Gault, tout ça. Bon, j'avais été prié pour elle. Et je prie pour elle. Et puis au moment où je finissais de prier, que je la saluais, son père rentre. Son père rentre de type un peu bourru, là, il rentre. Et elle me dit vous êtes le pasteur, ben, priez pour moi parce que je suis malade. Et bon, je prie pour lui. Je prie pour lui. Je lui impose les mains. Et au moment où je prie pour lui, je sens que cet homme est rempli de ténèbres. Alors je finis de prier, je dis bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il me dit, je suis agriculteur. Il me dit, vous êtes agriculteur? Et sa fille, dis-lui qu'est-ce que tu es. Ah, toi, tais-toi, il lui dit, tais-toi. Dis-lui, papa, que tu es un sorcier. Alors j'ai dit à cet homme, écoutez-moi bien, la prière que j'ai faite, Dieu ne l'exaucera pas, tant que vous ne vous repentirez pas. Il m'a regardé avec une fureur pas possible. Et quand je suis arrivé à la maison, sa fille m'a appelé. Et sa fille me dit, Monsieur Gault, mon père c'est un sorcier. Tous les gens qu'il m'a dit qu'il allait les tuer, ils sont morts. Il m'a dit, Monsieur Gault, j'ai peur pour vous. Je lui ai dit, écoutez, vous inquiétez pas. Et je me rappelle, j'ai raccroché le téléphone, mais j'étais dans une paix. Je me suis dit, ça m'étonnerait que Dieu veuille me reprendre de cette façon. Et 3 mois après, elle m'appelait pour me dire, Monsieur Gault, mon papa il est décédé. Et la malédiction n'atteint pas les chrétiens. Est-ce que vous le savez? C'est important ça. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pour ça que je vous disais que si on écoutait vraiment Dieu, les chrétiens qui sont super... Parce qu'il y a des chrétiens qui sont superstitieux. Ça fait peur de voir, même ici, la quantité de gens qui sont encore superstitieux. Mes frères et sœurs, si vous êtes couverts par le sang du Seigneur, vous ne risquez rien. Mais il n'empêche que ce mot que Jésus utilise, il l'utilise à dessein pour que nous compreniez bien, pour que nous comprenions bien qu'il y a une bénédiction. Et il y a une malédiction. Il y a le bien et il y a le mal. Et qu'un chrétien doit vraiment s'appliquer à comprendre qu'on ne rit pas avec les choses éternelles. Vous pourrez rire avec... Bon, ça m'est égal, si bon, ne le faites pas. Mais c'est une façon de donner un exemple. Vous pouvez rire avec la politique, ça, c'est bon, c'est pas utile, mais ça ne me gêne pas. Mais ne riez pas avec les choses éternelles. Ne riez pas avec l'éternité. C'est trop sérieux. Je me souviens de cette semaine, une dame qui m'a appelé, qui vivait vraiment dans le péché, mais vraiment dans le péché. Elle est arrivée ici, elle venait ici, et elle m'a fait des raisonnements. J'ai dit, mais si c'est pour continuer à vivre dans le péché, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Elle se gargarisait de dire qu'elle était chrétienne et qu'en même temps elle vit dans le péché. Mais j'ai dit, mais c'est pas la peine que vous veniez à l'église. Et cette semaine, cette personne m'a appelé pour me dire, vous savez, monsieur Gossin m'a fait réfléchir, je me suis repenti. Et j'ai mis ma vie en règle avec Dieu. Et il faut être sérieux. Vous n'imaginez pas que parce que vous allez aller à l'église, vous êtes sauvé. C'est ça la superstition. C'est ça, je vais à l'église, Dieu est avec moi. Je mets mon costume le dimanche matin, je dis Alléluia. Je l'ai peut-être même dit plus de fois que Monsieur Olé Alléluia. Monsieur Olé, combien de fois vous avez dit Alléluia? 12 fois? Ah, moi 14. Je dois être plus spirituel que Monsieur Olé. Alors bien sûr que ça peut faire rire. Mais laissez-moi vous dire que la superstition, ça peut nous amener à des aberrations pareilles. C'est une façon de parler, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et dans la parabole des 10 vierges, il y a deux groupes. Jésus dit bien qu'il y en a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. C'est Jésus qui parle. Alors, est-ce que je peux vous poser la question? Dans quelle catégorie êtes-vous? Est-ce que j'ai le droit, de la part du Seigneur, de vous poser la question? Est-ce que c'est sérieux cette affaire? Ben oui. Mais vous devriez, à la fin de cette prédication, pouvoir, en toute honnêteté, dire, voilà, je suis dans cette catégorie. Ou je suis dans l'autre catégorie. Vous devez, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de sérieux. Que vous soyez dans l'un ou dans l'autre, à la limite, je vais presque dire, c'est pas grave. Mais au moins que vous puissiez vous positionner. Afin de dire, voilà, je suis fou, je ne veille pas. Parce que le conseil qui est adressé à toutes ces vierges, il est résumé par cet avertissement, veillez. Toute la Bible nous demande de veiller. Vous pouvez lire de la Genèse à l'Apocalypse, vous pouvez prendre les versets et vous verrez que ce sont des avertissements à veiller. Veille attentivement sur ton âme, vous êtes sûr que c'est tous les jours, Madame Jean-Louis? Vous êtes sûr? C'est ça. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, afin que ces choses ne sortent pas de ton cœur. Il y a des gens, mais vous leur dites, est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? Allez, c'est vrai que ça fait peut-être un peu légaliste. Mais vous croyez qu'un pasteur, même s'il est maladroit, même un ancien, on peut être maladroit, c'est clair. Vous croyez quand même que ce n'est pas une preuve d'amour quand on dit à quelqu'un, mais est-ce que vous lisez votre Bible? Oh, c'est pas la peine, ça vous regarde pas. Je sais ce que j'ai à faire, moi je la lis pas, mais je suis spirituel. On l'entend, ça. Je pense qu'il y a vraiment un peu de folie là-dedans. Parce que si Dieu n'arrête pas de nous dire de la Genèse à l'Apocalypse, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, c'est que peut-être il faudrait le prendre au sérieux. Ça vient pas d'un mouvement, ça vient de Dieu lui-même. Si je me tais, j'entendrai. Mais je ne la lis pas, ma Bible. Je pense que tout va bien se passer. Les folles. Parce que vous savez, dans le mariage, c'est un enseignement et une image par rapport au mariage chez les Juifs. Donc, je ne vais pas tout vous résumer parce que ce serait un peu long. Mais imaginons, tiens, les vierges sont à Sainte-Agne. Le marié, il est au minime. Voilà, ça va être facile comme ça. Voilà, et le mariage doit se faire au Capitole. Donc, je sais le temps qu'il me faut pour aller au Capitole à pied. Il me faut, mettons, une heure. Voilà, on s'en va avec toutes les copines. Et voilà, on s'en va ensemble. On s'en va. Et je sais qu'il me faut, dans ma lampe, il me faut pour une heure d'huile. J'en prends. Le mariage se passait dans la soirée. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Comme l'époux tardait. Vous l'avez vu au verset. Voilà, le problème, il se révèle là. Si l'époux n'avait pas tardé, la folie ne se serait jamais démarquée. Vous comprenez? Si l'époux était arrivé le soir, le problème de la folie ne se serait jamais dévoilé. Est-ce que vous me suivez? S'il était arrivé à l'heure, jamais on n'aurait pu dire qu'il y avait des folles parmi ce groupe. Mais voilà, l'époux tarde. C'est ce qui se passe. Le Seigneur Jésus, d'après beaucoup, tarde. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Ça fait 2000 ans qu'il est parti. Quand même, on a entendu plein de prophéties, qu'un jour ça correspond à 1000 ans. Donc il y a eu les 4000 ans de l'Ancien Testament. Maintenant, il y a les 2000 ans de la grâce. Je résume. Il n'est pas encore revenu. On est en 2014. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Etc. etc. Comme l'époux tardait, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc elles avaient prévu de l'huile jusqu'à 7 heures du soir, parce que le mariage avait lieu le soir. Et voilà que c'est 11 heures du soir, il n'est pas arrivé. Et ce qui devait arriver, arrive. Il y en avait qui étaient sages et qui avaient pris un petit réservoir d'huile. Et les folles, elles disent, mais non, il va arriver, vous inquiétez pas, Dieu est bon. Et elles n'avaient pas d'huile. Et un conseil est donné, un conseil. À quoi il sert ce conseil, au fait? Mais à quoi il sert ce conseil? Les sages répondirent, achetez de... Voilà. Non, lampe s'éteigne, allez acheter de l'huile. Achetez de l'huile. À quoi ça sert? C'est Jésus qui parle, attention. À quoi ça sert? Est-ce que Jésus sait très bien que ça va servir à rien? Allez vite, achetez de l'huile, où c'est qu'il y en a? Il y a un local ouvert à Balma, allez à Balma, vite, vite. Et vous revenez. Je vous donne des images géographiques pour que vous compreniez. Mais ce conseil sert à quoi, en vérité? Il sert à rien. Bien sûr que pour nous, tant que la porte est ouverte, ça nous stimule. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus reviendra, les efforts qui seront faits à la dernière minute, ça servira à rien. L'autre jour, je regardais sur Internet, vous savez, il y a plein de petites vidéos sur des films qui ont été faits sur l'enlèvement de l'église. Vous savez, il y a des petites vidéos de 3-4 minutes. À un moment donné, on voit un temple, il y a 400 ou 500 jeunes devant, et alors le pasteur, il prêche, il est là, alors il est à l'américaine, vous savez, il parle, il bouge, il prie, tout ça, il discute, il prêche en bougeant sa Bible. Tout le monde est là, tout le monde écoute, et puis tout d'un coup, il y a comme un éclair, flash, on entend, paf, la Bible qui tombe, et dans ce groupe de 5 ou 600, il reste une dizaine de personnes qui sont là. Elles se tournent. Et puis, elles se jettent à genoux, elles prient. À quoi ça sert? Ça ne servira à rien. Jésus, il a donné cette parabole. C'est une prophétie. C'est archi sérieux. Ça veut dire que les efforts de la dernière minute, ça ne servira à rien. Ce n'est pas quand le Seigneur va enlever l'Église qu'on va se dire, ah tiens, mes parents sont partis, ça serait peut-être bien que je mette ma vie en règle. Ça servira à rien. Sinon, à effrayer encore plus le cœur que la grâce est terminée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la folie ne se serait pas manifestée si l'époux était arrivé à l'heure. Et nous voyons bien, nous le voyons bien. En plus, il y a des prophéties qui sont imparables. Quand Jésus dit qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est quelque chose de sévère. Il y a des chrétiens, voyez, vous parlez du salut des âmes. Ce matin, pourquoi je me suis permis? Je l'ai fait parce qu'avant, je ne l'aurais pas fait. Mais quand on priait, il y avait une sœur qui priait pour le salut de ses enfants, de ses neveux et nièces. Je l'ai senti qu'il y avait des chrétiens qui sont... Ils planent. Est-ce que ça ne vaut pas la peine, quand on est tous ensemble, de s'unir pour le salut de nos enfants? Mes frères et sœurs, sérieusement, vous croyez que Dieu peut en sauver avant? Même si certains ils boitent un peu, comment ça s'appelle, le neveu d'Abraham, Lot, qui quand même n'était pas trop bien spirituellement. C'est compliqué cette affaire, mais il a quand même, Dieu l'a sauvé. Et vous devez. Honnêtement, ce n'est pas possible si le Saint-Esprit est au milieu de nous. Ce n'est pas possible que nous ne sachions pas dans quelle catégorie nous sommes. Si vous veillez, que Dieu soit béni. Celui qui ne veille pas mourra. Ce mot veiller devait être un mot qui devrait être connu de tous les chrétiens. Nous devrions presque connaître par cœur tous les textes où Jésus nous demande de veiller. C'est Jésus, quand il parle de la fin des temps, il dit, ce que je le dis à... tous, veillez. Je vous ai tout annoncé à l'avance. Ce n'est pas une preuve de délicatesse, ça? Il y a des gens, bien sûr, qui aimeraient que Jésus leur en ait dit davantage sur ceci ou sur cela. Écoutez, si Jésus nous a dit « je vous ai tout annoncé à l'avance », c'est que tout ce que nous avions besoin de savoir, on l'a là-dedans. Que son nom soit béni. Mais il le dit, mais veillez, on va le lire ce verset, pour les gens qui ne lisent pas la Bible. Parce que normalement, les versets sur le fait de veiller devraient être connus de tous les chrétiens. Vous voyez, je ne voulais pas vous le lire ce verset, je voulais vous le citer de tête. Mais c'est bien que vous le lisiez avec moi, Luc 21. Ce sont des versets sérieux, mes frères et sœurs. Tous les textes sur le fait de veiller, on devrait les connaître par cœur, par cœur. Si vous partiez en Afrique, vous ne seriez pas content d'avoir tous les médicaments pour certains virus ? Dites-moi, si vous partiez en Guinée ou en Centrafrique, vous ne seriez pas content d'avoir dans votre sacoche tous les virus, tous les vaccins? Pardon, oui, mettez-vous à ma place. Ceux qui ont ri, je veux vous voir à la fin. Luc 21, verset 36. Comment tenez-vous compte de ce verset? Qu'est-ce que vous en faites au quotidien? C'est Jésus qui parle. C'est sérieux, vous savez. Bon, toute la parole, c'est Jésus qui l'a inspiré, mais quand même, quand c'est lui, pour moi, c'est un petit cran de plus. Veillez donc et priez le dimanche. Ah, pardon. Veillez donc et priez en tout temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prier en tout temps? Que 24 heures sur 24, il me faut être à genoux? Qu'est-ce que c'est ça? Tu te rends compte ce que Dieu l'a dit? Veillez prier en tout temps, mais tu crois que j'ai que ça à faire? Mais en tout temps, ça veut dire dans tous les temps que tu traverses, dans les temps de bénédiction, prie. Dans les temps d'épreuve, eh bien prie. Oh, je ne prie plus, j'en ai marre. Je traverse une épreuve, j'en ai marre. Si c'est ça être chrétien, priez en tout temps. Il y a tous les temps. Ne dites pas, voilà, moi je suis avec le Seigneur, Dieu est un Dieu d'abondance, je dois être riche, je dois gagner du pognon, je dois prospérer. C'est ça la vie avec Dieu. Mais où c'est écrit? C'est pas écrit. Dieu peut faire prospérer, mais moi je bénis Dieu qu'on n'ait peut-être pas prospéré comme on aurait aimé. Parce que si on avait prospéré comme on l'aurait souhaité, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui ne seraient pas là. On serait dans des endroits peut-être sophistiqués. Mes frères et sœurs, Dieu, vous savez que Dieu sait ce qu'il veut nous donner, ce qu'il a à nous donner. Veillez, priez en tout temps, le jour, la nuit. Mais est-ce que ça vous arrive de prier dans votre lit? Ça vous arrive? Vous aimez prier sous votre couette? Ben c'est bien. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et toutes les choses qui arriveront, vous les avez avant. Alors, oui, mais je prie, mais ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, on entend des chrétiens qui sont vraiment mal disposés. Alors, il y a cette question d'honnêteté. Alors, il y a deux versets qui me sont venus à l'esprit quand j'ai préparé ce culte. Un verset dans le Proverbe 28, verset 10, si je me souviens bien, quand il est dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. On va le lire. Le regard de certains m'inquiète. Alors, que je ne me trompe pas, qu'est-ce que je vous ai dit, Proverbe 28? Alors, voilà, ça sert quand même d'apprendre par cœur. Ce Proverbe 28, verset 9. Lisez-le, c'est sérieux. Est-ce que vous écoutez le Seigneur ce matin? Est-ce que vous écoutez ce qu'il a à vous dire? Dieu dit, Dieu est en train de vous dire, voilà, tu es sage ou tu es fou. Il faut que tu saches dans quelle catégorie tu es. Sinon, la prédication, ça n'a aucun sens. Proverbe 28, verset 10. 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Revenez avec moi dans le psaume 102. Ce sont des choses sérieuses. Alors, il y a des prières qui sont des abominations et il y a des problèmes de gens qui sont misérables. Est-ce que ça vous arrive d'être misérable? Donc, il peut y avoir de l'abomination, il peut y avoir de la misère. Et pourtant, regardez ce qui est dit dans le psaume 102. Psaume 102, verset 18. Il est attentif à la prière du misérable. Hein? Il ne dédaigne pas sa prière. Donc, il y a des prières que Dieu accepte et il y a des prières que Dieu refuse. Les prières que Dieu accepte, c'est la prière des gens vrais, qui sont honnêtes, qui sont là et qui disent « Mais oui, je suis fou, je ne veille pas, je lis ma Bible le dimanche quand le pasteur cite les textes à lire. » Vous êtes fou. Il faut, je vous le dis mal, je vous le dis à ma façon, mais c'est Dieu qui vous le dit. Vous êtes fou. Si vous ne veillez pas sur votre âme, vous pouvez connaître la Bible par cœur, ça ne sert à rien. Alors, regardez ce que Dieu dit. Parce que j'aimerais quand même terminer dans ce sens où nous devons comprendre que l'heure approche. Vous êtes d'accord que l'heure approche? Et est-ce que vous vous rendez compte? Les vierges folles, écoutez bien. Les vierges folles, elles ne sont pas prêtes. Oui? Si quelqu'un se trouve dans le cas d'une vierge folle, si cette personne-là devait mourir ce soir ou dans la journée, est-ce qu'elle est prête à partir avec le Seigneur? Et c'est une question qu'il faut se poser. Oui ou non? C'est une vierge. Elle attend le... C'est une pentecôtiste. C'est clair que c'est une pentecôtiste. Elle attend le retour du maître. Il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent le retour du maître dans la religion. Alors, je vous pose cette question. Elle est solennelle. Une vierge folle qui meurt avant le retour du maître, elle va-t-elle au ciel ou va-t-elle à l'enfer? Vous avez la réponse. Vous l'avez la réponse. Il y a un souci d'équité, de droite. Même si on est misérable, vous avez vu, Dieu entend la prière du misérable. Si on est misérable, si on dit, mais je suis misérable, ce que j'entends ce matin, M. Hugo nous le répète pour la 20e fois, mais en vérité, ce n'est pas M. Hugo, c'est le Seigneur qui vous le rappelle pour la 1e fois. Et il faut qu'on sorte de cette léthargie spirituelle, de cette tiédeur. Quand Dieu reprend les croyants du temps du prophète Amos, moi il m'a dit, cette chose-là, moi j'y pense continuellement. Regardez avec moi, il faut le lire. Mes frères et sœurs, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Dans le prophète Amos, hier, il y a une dame qui m'appelait, pendant que vous cherchez le texte, Amos chapitre 5, verset 21, elle me disait, ma sœur, mariée, est arrivée avec son pasteur, avec un pasteur qui est devenu son copain. Et nous sommes arrivés dans un contexte, mes frères et sœurs, l'apostasie, elle est partout. Et si nous ne veillons pas, laissez-moi vous dire que nous ne serons pas prêts. Et si Jésus utilise à bon escient le mot « fou », c'est bien parce que c'est important, c'est pour nous faire réagir. Il aurait pu mettre le mot « négligence », parce que c'était de la négligence. Un mot beaucoup plus cool, beaucoup plus acceptable. Dieu utilise le mot « fou » parce qu'il sait très bien qu'il faut comment on réagisse. Quand est-ce qu'on réagit? Regardez ce que Dieu dit à certains chrétiens. Amos chapitre 5, verset 21. « Je hais », c'est Dieu qui parle. « Je hais, je méprise vos fêtes », les fêtes religieuses, pas la fête du village, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes guitares. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Alors si vous voulez d'autres textes, je peux vous les donner. Dieu dit, je ne supporte pas vos cantiques. Qui c'est qui a institué les cantiques? Qui c'est qui a institué les cantiques? C'est Dieu. C'est Dieu, oui, c'est Dieu. Qui c'est qui a institué les sacrifices? C'est Dieu. Mais lorsque nous ne vivons pas par la foi, lorsque nous n'obéissons pas, Dieu nous dit, mais je ne le supporte pas. Je ne les regarde même pas. On s'étonne que Jésus, dans l'Apocalypse, dans l'église de l'Odyssée, soit à la porte, mais il ne faut pas s'étonner. Parce que nous avons un Dieu, mes frères et sœurs. Alors, moi, je peux présenter tout ça d'une manière négative, mais j'aimerais, mes frères et sœurs, que vous compreniez surtout que si Dieu utilise des mots solennels, c'est pour qu'on réagisse. Parce que les vierges folles, comme je l'ai dit, si elles devaient mourir, elles ne sont pas prêtes naturellement. Mais encore à l'enlèvement de l'Église, elles auront la possibilité de se repentir après. Vous savez qu'après l'enlèvement de l'Église, il n'y a plus la grâce, mais il y aura un système monétaire et un système politique tellement différent que tous ceux qui voudront rester chrétiens seront décapités. Vous l'avez lu ça. Alors encore, elles ont une petite chance, une possibilité de se repentir, car il y a une grande foule qui se convertira pendant la tribulation et la grande tribulation. Ce sont tous les chrétiens qui étaient fous et qui vont comprendre après l'enlèvement que ça aurait été mieux de rentrer avant que la porte soit fermée. Et quand Dieu dit ces choses-là, voyez, qui ne supporte pas certaines prières, mais vous êtes d'accord, je l'ai déjà dit, si je vivais dans le péché, vous apprendriez que je vis dans le péché. Qu'est-ce que vous diriez, franchement, que je vis dans l'adultère, hein? Allez. Est-ce qu'on peut prêcher et vivre dans l'adultère? Mais bien sûr. Bien, devant Dieu, non. Mais est-ce qu'on peut pécher et bien prêcher et vivre dans le péché? Mais bien sûr. Mais vous diriez, c'est minable. Il prêche, il n'est pas prêt. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Plusieurs viendront en ce jour-là et nous diront, nous avons prophétisé en ton nom, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Je leur répondrai ouvertement, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. On peut très bien avoir un service et vivre dans le péché. Et ces choses-là sont sérieuses, elles sont solennelles. Si le juste se sauve avec peine, et Dieu dit au pasteur, mais reprends-les, je dois vous reprendre, c'est une grâce. C'est sûr que cette prédication, elle ne va pas vous faire sauter de joie, mais on n'a pas besoin de sauter de joie. On a besoin d'entendre la vérité. Parce que si quelqu'un peut se repentir, c'est quand même mieux que de sauter de joie. Moi, quand je vois des gens qui sont dans le péché et qui dans les églises dansent, je ne pense pas que c'est le moment de danser dans les églises. Dans les églises, c'est le moment de se repentir et de revenir à une véritable vie de prière. Oui, Jésus dit qu'il y a des gens qui sont fous. Il ne le dit pas avec mépris. Vous savez combien l'amour de Dieu est grand et immense. Justement. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous demande de considérer ces choses. Vous vous rendez compte, si Jésus revenait là, dans la minute qui suit, et que vous restiez là, vous direz, mais pourquoi je ne me suis pas converti pendant qu'il prêchait? Il ne faut pas se convertir après. C'est maintenant qu'il vous faut vous convertir. Maintenant, en cet instant, il vous faut vous dire, Seigneur, oui, je te donne ma vie, je reviens à toi. Je ne veux pas faire partie de ces hypocrites dont Dieu dit que leur prière est une abomination. Il y a des prières, Dieu ne les supporte pas. Et pourtant, vous pouvez être dans la misère totale. Dans la misère totale, dire, mais je suis comme misérable. Et Dieu va exaucer votre prière. Ça ne tient pas à grand-chose. C'est une question d'honnêteté. Et avant de terminer, je voudrais entendre que vous entendiez un témoignage. C'est pour ça que pendant la Sainte Cène, moi je crois que le Seigneur, il est là pour guérir. Et que ce conseil qui ne sert à rien parce qu'il est venu trop tard, parce que c'est ce qui va arriver pour des millions de gens, acheter de l'huile, il est valable aujourd'hui, 19 octobre 2014. Il est valable. Mais peut-être qu'il sera plus valable ce soir. Alors, je vais demander à notre sœur Dena. Je l'ai vue, Dena. Oui. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Elle va vous dire comment elle a été guérie et délivrée.
Bonjour à tous. Très court. En fait, j'avais un problème au niveau de la colonne vertébrale. Donc, du coup, j'avais du mal à rester debout, à rester assise trop longtemps, à me coucher. Voilà, c'était juste horrible. Je souffrais vraiment. Et un jour où il y a eu un appel pour ceux qui étaient malades de s'avancer et pour prier pour ceux qui étaient malades, qui voulaient être guéris. Et moi, du coup, je me suis levée à ma place et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas voulu m'avancer parce que je me suis dit que si le Seigneur peut le faire à ma place ou devant, voilà, il va le faire. J'ai pas besoin de m'avancer. En fait, c'était mon état d'esprit sur le moment. Et je me suis levée à ma place et j'ai dit, Seigneur, si tu le veux, ben, guéris-moi. Et il m'a guéri tout de suite. Voilà, c'était tout de suite. Et j'avais le sourire jusque-là. Je comprenais pas, en fait. Je me dis, Seigneur, tu l'as fait, tu m'as guéri. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de rester à ma place et juste de prier. Simplement, et Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, et il a fait plusieurs fois, et c'est pour encourager ceux qui doutent peut-être, et voilà, d'avoir cette foi-là toute simple et qui est efficace. Le Seigneur, il est là, il veut agir, et voilà.
Et laissez-moi vous dire que notre sœur a été très sobre, parce que je peux vous dire que quand elle dit qu'elle a été délivrée, elle a vraiment été délivrée. Elle a été très sobre, très succincte, mais je peux vous dire qu'elle a vraiment été délivrée. Il est attentif à la prière du misérable. Autant il ne supporte pas l'hypocrisie, autant notre Père Céleste est plein de miséricorde. Il ne dédaigne pas sa prière. Vous l'avez dédaigné? Vous avez pris les choses à la légère? Moi, ça me fait du bien quand je lis. Il ne dédaigne pas la prière du misérable. Vous savez, Dena, elle a été vraiment... Parce que je lui avais dit, faites court. Mais elle aurait pu dire des choses. Vraiment, quand Dieu voit un cœur honnête, un cœur vrai, il le guérit. Vous croyez que Dieu préfère Dena à vous, à quelqu'un d'autre? Il est au milieu de nous. Mais on ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne prend pas la Sainte Cène pour le soir regarder des cochonneries. Si vous voulez regarder des saletés à la télé, ben regardez-les. Mais ne prenez pas la Sainte Cène, ça ne sert à rien. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ce que je vous dis? Ben, de toute façon, ça m'est égal. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est la vérité. Que celui qui veut se souiller, se souille. Mais si vous voulez vous souiller, mais souillez-vous. Vous n'êtes pas dans une secte, Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Mais souillez-vous si vous aimez le péché. Eh bien, aimez le péché. Et je suis convaincu qu'il faut dire ces choses de cette manière. Il faut que ça soit clair. Si Jésus dit, mais les folles, il y a des folles, c'est pas du mépris. Bien sûr qu'aujourd'hui, on va dire, oui, mais le pasteur... Non. Vous avez envie d'être effrayé quand Jésus va revenir? Les jeunes qui n'étaient pas encore baptisés, ou qui n'étaient pas convertis, ou qui avaient pris le baptême pour faire plaisir à vos parents. Il y en a des gens qui prennent le baptême pour faire plaisir à leurs parents? Ben oui. Ce sont des choses solennelles. Le pain et le vin, ça nous rappelle les souffrances du Christ. Il est mort pour toi. Est-ce que vous le comprenez? Il est mort pour tes péchés. Le Seigneur du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes ces fleurs qu'on voit partout et qui a créé tout dans l'univers, il est mort pour toi et il est ressuscité et il va te prendre ou ne pas te prendre. Tu entendras béni ou tu entendras maudit. Déjà dans ma bouche, en tant que pasteur chrétien, ça fait déjà quand même peur d'entendre qu'un homme puisse prononcer ce mot. Alors dans la bouche du maître, c'est une affaire solennelle. Jésus n'a pas dit les choses pour nous faire peur, il a dit les choses parce que c'est sérieux. L'amour de Dieu est infini, personne ne peut comprendre l'amour de Dieu, mais il faut aussi dire que la justice de Dieu est infinie. Alors on va prendre la Sainte Cène. J'ai voulu qu'on la prenne après la prédication. Je voulais que vous entendiez le témoignage de notre jeune sœur Dena. Elle a été guérie, elle a été délivrée. Si vous êtes vrai, soyez vrai. Si vous êtes vrai, Dieu, il vous fera grâce. Si vous êtes hypocrite, ben vous endurcirez votre cœur. Ce n'est pas plus compliqué. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants? Est-ce qu'on peut vraiment répondre? Est-ce que vous pouvez répondre à cette prédication? Pas à haute voix, dans le silence. Est-ce que vous pouvez, mes frères et sœurs, les jeunes, les enfants qui sont là, les ados, peut-être il y a un rétrograde, que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu a pitié du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Vous pouvez dire Alléluia, je croyais moi. Il ne dédaigne pas la prière du misérable. Autant il est la comédie, le cinéma, autant Dieu aime le misérable. Seriez-vous couvert de péché? Vous pouvez ce matin lui dire Seigneur, purifie-moi. Je veux changer de catégorie. Je suis dans la catégorie des fous. Je veux passer dans la catégorie des sages. Il n'y a qu'un pas à faire pour passer de l'un à l'autre, c'est de veiller tous les jours. J'aurais dû prendre un quart d'heure pour vous expliquer ce qu'est le mot veiller. Je le ferai dans une autre prédication. Parce que la clé est là. Celui qui ne veille pas, il mourra. Celui qui veille, dit Dieu, je lui ferai voir mon salut. Alors mes frères, vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui avez accepté Jésus comme sauveur, qui avez certainement de l'huile, je l'espère qu'on a tous de l'huile dans nos lampes, mais quel que soit votre état, c'est entre vous et Dieu maintenant. Moi je vous ai dit ce que je devais vous dire, et j'exhorte maintenant les chrétiens à se lever à leur place. Mais faites-le avec cœur, seriez-vous dans la misère, mais levez-vous avec une reconnaissance. Quand Dena s'est levée, vous croyez que Dieu voyait son cœur? Elle n'a pas prié. Vous avez prié à haute voix, Dena? Non. Elle a prié dans son cœur. Dieu y voit tout. Ça, c'est la toute-puissance du Seigneur. Il y a 7 milliards 200 millions de personnes sur la terre. Dieu connaît ce qui se passe dans le cœur de 7 milliards 200 millions de personnes en ce moment. Bien sûr que ça nous dépasse. Dieu est esprit, tout ça, c'est compliqué un peu, j'avoue. Mais vous pouvez lui faire confiance. Alors mes frères et sœurs, baptisés par immersion, levez-vous. Si vous n'êtes pas baptisés par immersion, profitez de ce moment pour vous repentir, pour vous convertir. Comme ces deux homosexuels qui m'ont dit l'autre jour, on a mis notre vie en règle, gloire à Dieu, parce qu'elles ont compris qu'il ne fallait pas badiner avec le péché. C'est pas merveilleux ça? Eh oui. C'est ça l'Église. Moi, ça m'a réjoui ce témoignage. Le témoignage de Dena m'a encouragé. Alors levez-vous, mes frères et sœurs. Levez-vous, restons dans le silence. Ou si vous voulez faire une prière, faites-la. Simplement. Mais profitez de ce moment pour répondre à votre Seigneur. Oui, vous entendrez béni. Il y a des gens qui veulent entendre béni sois-tu. Entre. Il y a quelqu'un qui a envie d'être effrayé parce qu'il s'amuse avec le fait de veiller. Notre Père, notre Dieu, tu as tout accompli au calvaire. Nous le savons. C'est certainement la plus immense bénédiction de tout l'univers. Ta mort et ta résurrection. Et pourtant, tu as daigné en plus nous laisser ta parole. En plus, nous l'avons dans notre langue. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Aide-nous à faire partie de la catégorie des sages. S'il te plaît, Seigneur. Amen.